Nous voici arrivés aux portes de Noël. Ce dernier dimanche de l'Avent ouvre la porte à la semaine ravissante, radieuse et en même temps si intime qu'est Noël. L'annonce à Joseph nous donne aujourd'hui cette possibilité d'entrer dans le mystère de cette nativité toute divine. Isaïe, en première lecture, nous dévoile un contexte en son temps qui est un contexte de menace contre l'existence du royaume de Juda, le petit royaume de Juda. Il a deux ennemis. Curieusement, son frère, c'est-à-dire le royaume du Nord, qui a Samarie, comme on l'appelle, c'est sa capitale, et il y a Damas, la Syrie. Voilà que des Hébreux se sont unis aux Syriens pour réduire à rien le petit royaume de David. C'est dans ce contexte-là qu'est formulée la prophétie d'Isaïe. Isaïe, c'est un accomplissement imparfait. Qu'est-ce qu'il prédit ? Il prédit que le fils du roi, avant même qu'il ait atteint l'âge de raison, le temps de la délivrance de Juda sera arrivé. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive parce que concrètement, la Syrie, le grand empire d'Assyrie va s'en mêler. Akaz va profiter de l'occasion, il va envoyer plein d'argent au roi d'Assyrie pour le faire intervenir à son secours, et c'est ce qui va advenir. L'Assyrie tombe et ensuite ce sera la Samarie elle-même. Mais ça, c'est rien du tout, parce que le salut n'est pas arrivé pour autant, ni au royaume du Nord, ni au royaume de Juda. Et à l'époque du Christ, on attendait encore ce salut. Non, ce qui explique la prophétie d'Isaïe, la femme, la Vierge, qui doit enfanter, ça c'est réservé au Christ lui-même. Le Christ est le seul à expliquer cette prophétie. Et Marie, qui a, avant même l'Annonciation, médité sa vie durant les mystères de l'Écriture, précède par sa foi le peuple d'Israël dont elle est la représentante, dont elle est le petit reste, tout pur. Marie, reçoit, nous le savons, son Annonciation. Joseph, lui, est interdit face à cette situation. Il ne peut pas accueillir le signe. C'est quoi le signe ? C'est la femme qui enfante. La Vierge, en tant que signe, précède même l'enfant. Marie prend toujours de l'avance, mais en même temps, elle n'obombre jamais la lumière, elle ne cache pas la lumière. Elle est tout accueil à la lumière pour la faire briller. Jésus, dit l'ange à Joseph, c'est le nom de cet enfant. Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. C'est le commentaire même de Matthieu. Oui, Dieu sauve. Il sauvera le peuple de ses péchés. Dans l'Ancien Testament, il y avait un grand rituel annuel par lequel le grand prêtre, remettait les péchés de tout le peuple d'une manière très solennelle. Et lui-même, était obligé de faire pénitence pour qu'il lui soit remis ce péché. Mais remettre, ça ne veut pas dire pardonner. Le péché était simplement la sentence du péché, si vous voulez, était reportée, comme la dette. La dette, elle est tout le temps reportée, il y a les intérêts qui courent, c'était pareil au niveau moral. Une dette qui n'en finissait pas de grossir parce qu'elle ne pouvait jamais être remboursée. C'est désespérant. Et Jésus est le Sauveur qui peut mettre un point final à cette malédiction. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, ce qui est hors de leur portée, cet enfant à naître, lui le peut. Et il vient naître au milieu de nous pour le faire. Et nous l'accueillons pas seulement comme une curiosité céleste. Tiens, le Fils du Créateur, qui est le Créateur lui-même, vient nous visiter. Non, c'est bien plus que ça. Et il vient nous apporter quelque chose d'unique, la vie qu'il possède en plénitude, la vie qui est en lui-même et qui n'est pas en nous-mêmes. Nous en avons une bonne leçon avec la vie physique, hein, qui est si fragile, ce temps qui est si court et qui court comme un torrent. Nous avons besoin de ce salut. Nous nous rendons compte qu'une vie ne suffit pas pour défaire ce que nous avons noué, que ça ne suffit pas pour accomplir ce que nous nous sentons enclins à réaliser. Dieu seul peut donner un prolongement infini à notre désir, le désir du bien, bien sûr. C'est hors de la portée de pardonner les péchés, de s'échapper de la malédiction du mal. Tous les hommes gémissent de cela. Isaïe, deux chapitres après la première lecture qu'on a faite, nous dit « Le peuple qui gisait dans les ténèbres de la mort a vu une grande lumière. » Ça sera repris aussi par d'autres prophètes de son époque. Les ténèbres, c'était le mot clé pour les prophètes de son temps. Donc on est au 8e siècle avant notre ère. Pour qualifier cette instabilité inimaginable dans laquelle les gens étaient baignés, pas seulement sociale, mais elle était aussi spirituelle, c'est-à-dire le sens des choses. On retrouve aujourd'hui le même chaos qui semble s'emparer de notre monde. Et nous avons, et les gens, spontanément, les incroyants, s'entend, eh bien, cherchent vraiment un appui, un sauveur qui pourrait les tirer de là. Ce sauveur existe, nous le savons, nous célébrons l'anniversaire de sa naissance, tous les ans dans la joie, dans l'espérance, car nous pouvons nous reposer en espérance autour de cette mangeoire que la Vierge entoure de ses bras amoureux. Joseph, eh bien, fait son fiat lui aussi. Il accepte, vous voyez, c'est ça qui est très beau en Joseph, le dépassement complet de ses intérêts personnels, de son bonheur personnel. Il aurait très bien pu dire, mais j'ai droit au bonheur humain, moi, à être comblé dans le mariage, sous tous les angles. Il s'efface, Joseph, comme Marie s'était effacée devant l'ange. Sa sainteté est aussi radicale que celle de Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste qui donne tout pour aller au désert, pour s'adonner à sa vocation. Il y a là des personnages fabuleux autour de Noël. Cet enfant est là pour briller au milieu des ténèbres et surtout pour mettre fin au temps des ténèbres de la mort, comme disait le prophète Isaïe, des ténèbres spirituelles. Celles-là nous font mourir. Chose curieuse, quand on refuse Dieu au nom de sa vie, pour prendre en main sa vie, pour profiter de la vie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il semble qu'au contraire, eh bien, tout soit amer et que même si on a la vie, et pour un temps, eh bien, on n'arrive pas à en profiter comme il faut. Les gens tournent en rond, les gens sont dans les conflits ou dans les divisions intérieures, psychologiques, les déchirures, rien n'est jamais bien, ou si passagèrement. Non, la foi, l'espérance que la foi nous communique, elle vraiment nous tient la tête hors de l'eau, hors de ces ténèbres. Vous voyez, en hébreu, le mot ténèbres, ça se dit tselem. Et tselem, c'est à la fois les ténèbres, et ça veut dire aussi image, idole. Et ça nous dit que ces ténèbres-là, dont parle le prophète Isaïe, c'est l'obscurité démoniaque. C'est pas juste un néant qu'on pourrait combler avec le bien qui nous habite, qu'on pourrait décorer comme les vieilles maisons qu'on retape. Non, cette ténèbre-là, elle est d'ordre démoniaque et il est impossible de l'embellir, il est impossible de l'habiter, d'y faire son trou. Isaïe nous montre une période de décadence religieuse comme à l'époque du Christ. Et 20 ans plus tard, d'ailleurs, après sa prédiction, Samarie, eh bien, sera conquise et sa population dispersée par le roi d'Assyrie. Dieu seul peut résoudre bien ces situations où on n'arrête pas d'être balancé entre espérance et peur du châtiment et désespérance en amour, où les hommes passent comme un signal sinusoïdal d'une phase positive à une phase négative, en passant par le zéro de l'ennui et de la mélancolie. La plénitude des temps, c'est le moment où Jésus arrive, nous dit saint Paul. Et c'est-à-dire, ça veut dire qu'il est imprévisible. Nos calculs personnels ne peuvent pas encadrer l'heure de son arrivée. Il faut l'humilité de Marie, de Joseph, pour accueillir en temps opportun, eh bien, l'annonce de la naissance du Verbe. Par l'Église, tous les ans, nous en faisons l'annonce. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y penser le reste de l'année, mais particulièrement en ce temps de Noël liturgique, et la liturgie est faite pour ça, et elle est bénie par Dieu, pour nous permettre de revivre mystiquement ce que Marie, Joseph ont vécu en leur temps, lorsqu'ils étaient sur la terre. N'oublions pas que le mot sacrement, donc ce qui fait de la force de la liturgie, c'est ces assises. Sacrement, ça veut dire, c'est la traduction d'un mot grec qui veut dire mystère. Mystère, c'est le sens le plus profond d'une chose, le sens le plus sacré. Les sacrements, ça vient du mot sacré, sacrement, eh bien, ils nous disent, ils nous mettent vraiment en relation avec Dieu. Profitons de cela. C'est le grand trésor de l'Église. Elle n'en a pas d'autre. Mais c'est bien suffisant, elle a Jésus. Elle a cet enfant continuellement avec elle au long de son histoire. Alors, présentons-nous devant la crèche, adorons les décisions divines, adorons en rendant grâce le salut qu'il nous apporte jour après jour, lui qui nous sauve des ténèbres du péché.